Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.
On n'a pas trouvé encore d'exoplanète sur un monstre qui ferait sans soleil ou quelque chose comme ça.
Non, ça n'existe pas. Attendez, ça existe peut-être, mais avec les instruments actuels, on n'est pas capable de les détecter.
S'il y en a, ils sont beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de voir aujourd'hui.
Non, pas
forcément. Ce
n'est pas une question de distance, c'est une question de taille du signal. Notre signal est petit. Ah. Parce que si vous avez une étoile très massive... D'accord. Dans le cas des vitesses radiales, qui est la mesure d'un effet gravitationnel, même si vous avez une grosse planète, le centre de masse sera décalé.
La perturbation générée par l'exoplanète sera infinitésimale. Et donc, très faible, on ne la verra pas. On ne pourra pas la détecter. Donc, il y a peut-être quelque chose, mais aujourd'hui, on ne sait pas le voir.
Il faut quand même garder en tête en astronomie que, de toute façon, on est toujours contraint par l'instrumentation dont on dispose à un instant donné. À l'époque de Michel Mayor, on pensait, avant qu'il fasse cette annonce, qu'il faudrait développer les instruments encore peut-être pendant 10 ans pour pouvoir espérer détecter un signal de type d'une planète comme Jupiter.
Et finalement ?
Et parce qu'on a eu la chance, quelque part, qu'il existe d'autres planètes ou des planètes très différentes de celles qui sont dans notre système solaire et qui rendait la détection possible, qui était plus facile à détecter. Parce qu'en vérité, là, si vous voulez, on est dans une configuration où le signal est très facile à détecter. Une très grosse planète, très proche de son étoile, vous avez un déplacement maximal,
un grand déplacement important
du centre de masse commun par rapport au centre de masse de l'étoile toute seule.
Donc c'était mesurable, un coup de chance. Et dans une ligne de visée qu'on pouvait voir en plus.
Oui, mais statistiquement, comme ces planètes, il y en a quand même quelques pourcents, si vous observez les quelques centaines d'étoiles,
vous en trouvez
quelques-unes.
Donc en 1995, on trouve la première. Les Américains disent, j'en ai trouvé aussi quelques-unes. Donc on en a une petite dizaine à ce moment-là.
Et
maintenant, on en est à 3000 ?
Plus, peut-être. Plus. Ça va. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, à partir de l'annonce de Mayor et Kello, suivi par les Américains, ça va aller très très vite. Et il se met en place donc des espèces de alors en anglais, le terme c'est surveiller, des programmes de recherche. De ces planètes de façon presque, j'ai envie de dire, massive.
Oui, tout le monde s'y met en fait.
Beaucoup de monde s'y met.
Il y a un créneau, il y a quelque chose à trouver, on sait que c'est possible, donc on oriente sa recherche, dans l'infinité des recherches que l'on peut faire, on oriente sa recherche là-dessus et là on trouve.
Voilà, ne confondons pas, ce n'est pas toute la communauté astro.
Oui, non, mais il y a une certaine
personne
intéressée
qui ont fait ce genre de choses. Mais c'est sûr que, brutalement, si vous voulez, toute la question de savoir, s'il existe d'autres planètes autour d'autres étoiles, on avait une réponse concrète pour la première fois. Donc, c'est clair que la communauté des gens qui travaillaient, mettons, sur les disques circumstellaires, comme c'était mon cas, certaines personnes qui faisaient la physique stellaire, etc., se sont intéressées du coup à ça, puisqu'on avait enfin des moyens de mesure. Et en parallèle, on a commencé également du coup à développer l'instrumentation, puisque c'était possible.
Ça marchait.
On s'est dit, poussons l'instrumentation
un peu plus loin.
Essayons d'améliorer le plus possible les performances instrumentales de façon à augmenter la précision de mesure et à aller mesurer des planètes plus loin de leurs étoiles, plus petites également, et essayons de trouver des planètes peut-être un petit peu comme la Terre.
Oui, c'est ça le but en fait.
Le but ultime, c'est ça.
C'est trouver une planète similaire à l'autre dans ce qu'on appelle la zone habitable, parce qu'on cherche toujours quelque chose où il y a de l'eau. Et après, le Graal, c'est de dire qu'il y aurait une vie là-dessus.
Voilà.
Parce que je pense que tout le monde s'est orienté là-dessus, parce que la finalité, elle est bien là. Aller voir si par hasard, par miracle, il y a quelque chose en plus de nous, de vivant. Et donc, ça ouvre une porte là-dessus.
Tout à fait. Ou, en tous les cas, apporter une première réponse à la grande question qui est est-ce que la vie s'est développée ailleurs sur notre Terre ?
Sommes-nous seuls dans l'univers ? Oui,
sommes-nous seuls dans l'univers ?
C'est une question qu'on se doit se poser depuis quelques millions d'années, depuis que l'homme commence à réfléchir et regarde le ciel, quelques milliers d'années.
Je crois que des collègues philosophes m'ont dit 26 siècles.
26 siècles.
Il faut quand même qu'il y ait des écrits. Parce qu'en vérité,
avant, on savait
sinon,
pas.
On ne sait pas. Peut-être qu'ils se posaient la question.
Mais il n'y a pas de trace. Voilà, donc il faut exactement. Et vous, donc, c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de vous impliquer là-dedans dans ce, et de, d'orienter vos recherches là-dessus. Donc, à partir de quel moment ? Donc, 1995, c'est la première, et vous vous y êtes mis à partir de quand ?
96-97.
Ah, tout de suite, là.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, moi, je travaillais sur ce qu'on appelle les disques circumstellaires, c'est-à-dire, l'étoile, quand elle se forme par effondrement d'un nuage de gaz, de poussière interstellaire. Et en fait, on va concentrer l'essentiel de la masse au centre, d'accord, il y a un effondrement, mais en même temps, à cause de la force centrifuge, il se va se former dans le plan équatorial un disque, un disque de gaz et de poussière, et on pense que c'est au sein de ce disque que par donc les poussières vont sédimenter dans le plan équatorial, plan équatorial du disque, elles vont s'agglomérer, former des grumeaux de plus en plus gros, etc., qui vont se coller parfois, et former, jusqu'à former des tailles, des corps de taille kilométrique, on va dire, rocheux. Et c'est comme ça qu'en fait, si vous voulez, par hiérarchie, une série de corps de taille de plus en plus gros, hein, parce que tout ça c'est collisionnel, parfois les collisions détruisent le corps lui-même, et puis parfois ça marche et ça s'agglomère. Donc c'est un scénario très simplifié. Mais on va comme ça, on pense former les planètes.
C'est comme ça qu'on explique la formation du Soleil et des planètes gazeuses, telluriques, enfin, de ce qui est notre système solaire à nous.
Voilà.
Donc ce qu'on essaye de voir, s'il n'y a pas ça d'autres choses qui est encore en train de se produire ailleurs.
Absolument. Donc voilà, les disques circumstellaires vous renseignent, si vous voulez, sur les premiers temps de l'étape de la formation du système stellaire.
Stellaire, voilà.
Donc, j'ai travaillé sur les disques circumstellaires et il s'est avéré, je vous le disais tout à l'heure, on a poussé l'instrumentation un petit peu dans ses retranchements pour gagner en précision. Et donc, je vous disais, on peut détecter les planètes par le fait qu'elles induisent un effet dynamique sur l'étoile. Mais si maintenant vous imaginez que vous observez une étoile et que cette étoile a une planète, et que le plan orbital de la planète se trouve proche de votre ligne de visée.
Dans le même axe.
Vous voyez, quand vous montez votre bras, ça symbolise, et vous pointez un point dans le ciel, le bras symbolise la ligne de visée. Donc, il faut garder en tête que le mouvement d'une planète s'effectue dans un plan, centré sur l'étoile, et ce plan ne change pas.
Une fois qu'elle elle s'est mise à tourner autour, elle reste là.
C'est les lois de Kepler, sauf perturbation, mais bon, ok, ça reste dans ce plan-là. Donc, si votre étoile a une planète, et que c'est le plan de cette planète, le plan orbital de la planète, est confondu avec votre ligne de visée, eh bien, vous allez voir chaque année de la planète, votre planète passer entre vous
et son soleil.
D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La planète, vous pouvez vous la représenter, c'est une espèce de... Elle n'émet pas de lumière à proprement parler. Ce qui fait la différence entre une étoile et une planète, je rappelle peut-être pour les personnes qui ne savent pas ou qui ont oublié, c'est que simplement la masse d'une étoile est telle, donc une étoile est composée de gaz uniquement. Il n'y a pas de surface rocheuse là aussi, ce sont des corps gazeux, les étoiles, mais sauf qu'il y a une telle quantité de matière, une telle concentration de masse... En fait, les conditions de pression et de température dans les régions centrales de l'étoile permettent la fusion des atomes qui constituent l'étoile. Donc, les atomes plus simples, l'hydrogène, mais n'empêche, donc on est à des millions de degrés.
C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur ITER.
C'est ce qu'on essaie de
150
faire.
150 millions de degrés.
Très péniblement sur ITER.
Et ce qui se fait tous les jours dans des milliards d'étoiles dans notre univers.
Ce qui se fait très naturellement au sein des étoiles. Les planètes, elles, ont une masse insuffisante qui ne permet pas le démarrage de ces réactions de fusion. Alors là aussi, fusion-fission, hein, on parle des bombes atomiques. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un atome lourd et on le casse en deux atomes légers, c'est ce qu'on appelle la fission. La fusion, c'est l'inverse, vous prenez deux atomes très légers et vous les forcez à fusionner, à se mettre ensemble, et vous forcez, et vous formez comme ça successions d'atomes de plus en plus lourds. C'est pour ça qu'on dit que les étoiles synthétisent les atomes lourds, plus lourds que l'hélium. Elles sont formées initialement d'hydrogène et d'hélium, et elles vont former
progressivement,
par fusion thermonucléaire,
de plus en plus de
carbone, azote, oxygène, plus tout ce qui nous compose.
De plus de neutrons, de plus de protons, de plus voilà. Et voilà.
Elles forment les
atomes. Les atomes, oui, de combinaison de tous ces composants. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des poussières d'étoiles, parce que nos composants atomiques ont été faits au cœur de ces étoiles, qui les ont ensuite essaimées dans l'univers. Mais ça, il y a un peu de philosophie, il y a de la technique, un petit peu de tout là, sur ça.
Je ne sais pas s'il y a de la... Oui, probablement il y a de la philosophie, oui, mais avant tout, il y a de la physique.
Il y a de la physique, mais après, les philosophes disent que ça a été orienté d'une certaine façon. On a eu une conférence très intéressante de la part de M. Gillet, là-dessus, sur l'interprétation des étoiles et la création des atomes et comment tout ça est arrivé à l'homme.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que je vous parle un peu de philosophie, non ? Parce que les réglages font que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réglé ou est-ce que c'est naturel ? Qui arrive à tout ça ?
C'est une question sur
oui, oui. C'est vous.
Bon. Alors, donc, si vous voulez, votre étoile est un disque, si on en revient à cette observation d'une planète qui passe devant le disque de son étoile, cette étoile est un disque lumineux, et la planète, elle, n'émettant pas de lumière propre, ou si peu, en fait, vous la voyez comme un disque sombre.
Oui, en fait, on a une éclipse.
Si vous voulez, on appelle ça un transit.
Un transit, oui.
Et ça veut dire que... Lorsque, pour vous, observateur, vous allez voir passer la planète devant le disque de son étoile, il va se produire une baisse de luminosité de l'étoile, puisque la planète va cacher une partie du disque lumineux.
De l'étoile, voilà.
Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle un transit, et c'est donc un effet purement géométrique. Si vous pouvez donc mesurer un transit, vous avez donc, puisque c'est un effet géométrique, un rapport de rayon, la possibilité de mesurer le rayon de la planète.
Oui.
Donc, dans le cas des vitesses radiales, vous mesurez la masse de la planète, étant entendu que vous connaissez la masse de l'étoile.
Oui, c'était une première hypothèse. Oui.
Et non, c'est plus une hypothèse, c'est une équation.
Il faut être sûr, il faut connaître la masse de l'étoile.
Il faut connaître la masse de l'étoile, voilà. Parce que vous n'avez qu'une valeur relative.
Relative, voilà.
Et dans le cas des transits, vous mesurez le rayon de la planète, étant entendu que vous connaissez le rayon de l'étoile, là aussi. Vous êtes capable de le mesurer. Donc, c'est une autre méthode. Et puisque vous voyez, dans un cas, vous avez la masse de la planète, dans l'autre cas, vous avez son rayon. Si vous combinez les deux, vous avez une estimation de quoi ?
Sa composition.
La densité.
Voilà.
La densité moyenne.
La densité moyenne.
Donc, vous savez, ainsi, si vous avez les deux, transit et vitesse radiale, si votre planète est plutôt rocheuse comme la Terre, si elle est gazeuse comme Jupiter ou Saturne, ou si c'est...
De l'éther.
Non.
Non, quand même
non,
pas.
Non. Si c'est par exemple une planète océan, il y a
toutes les possibilités.
D'accord. Donc, c'était d'où l'intérêt de pouvoir faire ces mesures de transit. Et le premier transit d'une planète qui avait déjà été détectée par vitesse radiale a été mesuré en 2000.
Cinq ans après,
sur la même planète. Sol, oui. C'était une planète géante, du Sol et de l'espace avec le télescope spatial Hubble. Et à partir de ça, on a pu donc conclure que, au moins dans le cas de cette planète massive, c'était bien une planète géante gazeuse. Une densité qui était, je crois qu'on était en dessous de 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire un objet un peu proche de Saturne en termes de propriété.
D'accord. Ah ouais.
Donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez, il s'avère qu'en France... il y avait des collègues qui travaillaient sur la physique stellaire qui avaient préparé un instrument pour mesurer les vibrations des étoiles, faire ce qu'on appelle de l'astérosismologie, au même titre qu'on fait de la sismologie sur Terre. On peut mesurer les vibrations des étoiles et ça donne des informations sur la structure interne des étoiles. Vous mesurez en quelque sorte la façon dont le son se propage à l'intérieur des étoiles, et ça vous renseigne sur la façon dont l'étoile est constituée.
La constitution des étoiles, si c'est rocheux ou gazeux.
Non, les étoiles ne sont jamais rocheuses.
Oui, d'accord, vous avez raison.
C'est toujours gazeux.
C'est tout, voilà.
Mais vous gazeux. Pouvez les connaître, la taille du cœur, vous pouvez connaître. Voilà, c'est des informations.
La nature du gaz, peut-être même à l'intérieur.
Non, parce
non
que
quand
ça,
même pas.
Disons qu'on le mesure en surface, ça, par d'autres techniques. Mais ça vous permet de connaître la structure interne, la taille du cœur radiatif, la partie convective, des choses comme ça.
C'était Espace Horizon Inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.